Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1235, en ce samedi 27 avril. J'espère que tout le monde va bien. Tout le blues actuel avec un petit œil dans le rétro. Chaque samedi, c'est Sweet Home Chicago.
Back to that same old place, Sweet Home Chicago.
Dans ce 1235e numéro, en première heure, deux extraits du superbe disque du mois Life is Hard de Mike Zito. Vous aurez droit aussi à une poignée de nouveautés Made in USA avec Solitary et le groupe T-Rogers, originaire de Budapest, le magnifique nouvel album live d'Eric Bibb, les légendes Taj Mahal et Ray Cooder réunis et un peu d'électricité avec le tout dernier JP Source.
Chicago.
Dans la rubrique 50 Years After, nous reviendrons sur Hockey, un superbe album de l'emblématique J.J. Cale, enregistré en 1974 bien sûr. Et puis dans le My Rockers numéro 45, c'est l'excellent Michal Benjeloun qui vous fera connaître son univers musical tout entier. On le connaît comme flamboyant guitariste de Gaël Busvel. Le guitariste l'admire pour son jeu inouï, ses participations multiples et sa propension à partager généreusement ses plans sur la toile. Et nous écouterons ici quelques-unes de ses influences, avec notamment son coup de cœur de tous les temps, le groupe Aerosmith, une passionnante interview de 30 minutes, très rock'n'roll, mais pas que, ponctuée d'anecdotes et de généreux extraits musicaux. En deuxième heure, ce sera Sean McDonald. Tout de suite, pour commencer, bien sûr, le disque du mois avec Monsieur Mike Zito, ça s'appelle Darkness.
I walk in slow, oh, with a weary man. She's dragging me low. Falling behind, you got me where you want me. Still, I keep on trying, trying to see through the darkness between you and I. Sometimes it gets hard to find. We'll be right back.
Et oui, ça aussi, c'est dans l'album de Mike Zito qui s'appelle Life is Hard chez Gulf Coast Records. On va continuer avec quelques nouveautés, notamment le groupe hongrois T. Rogers qui collabore avec Son Henry, qui nous raconte la jeunesse d'un des titres de cet album qui s'appelle Grace. C'est Looking at Trouble. Et dans ce titre, eh bien, tu rencontres quelqu'un dans un bar ou à une fête et tu sais tout de suite que tu cherches des ennuis en le regardant droit dans les yeux. Cette chanson décrit la nuit où j'ai rencontré ma femme. Je peux encore la voir à cette fête portant une combinaison noire élégante et un désordre sauvage de cheveux roux. La façon dont elle m'a donné ce clin d'œil, je savais juste que j'allais avoir des ennuis. Et la musique dans tout ça, le Texas avec une touche de piano honky-tonk, un peu comme Delbert McClinton. On va tout de suite s'en imprégner de ce titre. Ça s'appelle « Looking at Trouble ».
I thought I'd play it cool and be a natural man, but I'm hanging on, baby, don't you know, just as best as I can. Hands starting to shake, good God, and I'm starting to sweat, and she's looking back at me through the smoke of that cigarette. Not in my plans. I'm getting weak in my knees. I'm looking at trouble, man. I swear she's looking back at me. I hold on to my nerve. Buy her a drink. But the way the room is spinning, man, you know it's getting hard to think. In that long jumpsuit, with a zipper up the back, man, every time she spins around, she wanna give me a heart attack. Hey, you know it's not in my plans. I'm getting weak in my knees. Man, I'm looking at trouble, Lord, I swear she's looking back at me. Thought that I had game, just a man with a plan. But Jesus, take the wheel, you know I'm spinning right out of control. Have mercy on me, babe, little pity on me. I'm just a brain dead redhead chasing catastrophe.
C'était Son, Terry et T. Rogers, Looking at Trouble, extrait de l'album Grace chez Twang House. Peu de chance que vous trouviez ça chez votre dealer préféré, donc allez directement sur le net, c'est plus sûr. On poursuit avec un disque qui lui va être très très bien distribué, puisque c'est chez Stony Plain, Live at the Scala Theater. Je veux parler du dernier album de Eric Bibb, dont j'ai tiré un morceau qu'on connaît bien dans le répertoire d'Eric Bibb, mais qu'on a toujours autant de plaisir à réécouter. Ça s'appelle Rosewood.
They say the whole thing started with Fanny Taylor's lie. That spark lit the flame, fear and hatred fed the fire. Truly, it started centuries ago. Ships with human cargo chained down down below. I was in the third grade. I could read and write. I remember everything. The moon was full and bright, so bright. You could see shadows at midnight. The night they burned rosewood to the ground. Rosewood, rosewood, buried in the ashes of history. Rosewood, rosewood, where my family home used to be. To put on heavy clothes fast as we could. There was shooting everywhere. Had to get out in the woods. First person killed was my uncle. Sam Carter was his name. What happened in Rosewood that night? Nothing but a crime and a shame. Papers told how many whites and blacks were counted dead, but the tears had no color, the tears their families shed. Anyway, the numbers in the paper were nowhere near the truth. Could have been 10, could have been 100, we had no proof. History. Rosewood, Rosewood, where my family home used to be. The first day of the new year, 1923, burned like a brand on a child's memory. Hiding in the swamps, praying we'd get away. Never talked about it until today. History. Rosewood, Rosewood, where my family home used to be. Burn like a child's memory, where my family home used to be.
Il y a des concerts comme ça, on aurait bien aimé y être. Live at the Scala Theater, c'est chez Stony Plain Records, Rosewood, avec bien sûr le magique Eric Bibb. Des instants suspendus comme ça, il y en aura d'autres. Avec, tiens, tout de suite, The Main Night Special, un vieux morceau de Led Belly popularisé par Creedence Clearwater Revival sur Get On Board chez Nonesuch Records. C'était il y a 2 ans, un album à côté duquel malheureusement Sweet Home Chicago était passé. On va tout de suite réparer ça. Taj Mahal et Ray Cooder, s'il vous plaît, The Midnight Special.
Oh, let the midnight special shine a light on me. Let the midnight the midnight special. Shine a heaven loving light on me. Yonder comes this Rosie. How in the world do you know? Dolly know about her apron and the dress she wore, umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand. But she gonna see the governor. She was the Lisa man, let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine an ever-loving light on me. In the morning and the big bell ring, you go marching to the table. Well, it's the same old thing, four bowls on the table and nothing in the pan. If you say the thing about it, you best trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine an ever-loving light on me. Let's go.
Ils étaient trois, Taj Mahal, Ray Cooder et le fils de Ray Cooder aux percussions, The Midnight Special sur l'album Get On Board. On continue avec un truc un petit peu plus électrifié, J.P. Soar's Brick by Brick, c'est le titre de son album, voici Jezebel. Jezebel, c'était J.P. Soares sur l'album Brick to Brick chez Little Village. Voici maintenant le 45e épisode de My Rock Yours avec Michal Ben-Jeloun. Je suis au téléphone avec Michal Ben-Jeloun. Bonjour Michal, ça va ?
Ça va très bien et vous ?
Bah, nous, ouais, très bien. Franchement, ça fait un bon moment qu'on ne s'était pas vu ni parlé. Mais voilà, l'autre jour, dans My Rockers, la même rubrique, il y avait quelqu'un que tu connais, une certaine Gaëlle Busvel, la petite Gaëlle, tu la connais ?
Non, ça ne dit rien là.
Ça ne dit rien ? Tout d'un coup. Et elle a choisi, parce que tu connais le principe de l'émission, on choisit un artiste qui a compté un moment crucial de notre vie. Elle a choisi Johnny Lang. Est-ce que c'est quelque chose qui t'étonne, Michal ?
Pas du tout.
Alors, on parlera de ton choix tout à l'heure, mais tout d'abord, peut-être pour les 3 ou 4 extraterrestres qui ne te connaissent pas, Michal, guitariste, né en 1978, c'est ce que j'ai lu en tout cas, ça oui, traîne ça. Sur internet cette info, tu confirmes ?
Oui, oui.
Et j'ai vu que tu avais débuté très très jeune et que tu étais devenu pro carrément dès l'âge de 17 ans. Ça, c'est un truc que je ne savais pas pourtant, hein. Je pensais te connaître depuis longtemps, mais voilà. Dès l'âge de 17 ans, tu es guitariste professionnel, c'est ça ?
Oui, en fait, en tout cas, je vis de la musique.
Oui.
Avec des trucs plus ou moins alimentaires aussi, hein. J'ai dû commencer, j'ai fait du bal, j'ai fait tous les mariages, les trucs comme ça. Enfin...
Donc, tu es passé par toutes les cases, également toutes les cases musicales, tous les styles ?
J'ai parcouru pas mal de styles différents.
Quels sont tes styles de prédilection ? Moi, je sais que tu évolues maintenant dans le blues, la country, le classic rock, mais il y a peut-être d'autres choses qui t'ont fait vibrer dès tout jeune. Je crois que dès l'âge de 10-12 ans, tu touches une guitare, c'est ça ?
Ouais, en fait, à ce moment-là, c'est vrai que j'ai toujours eu une attirance sur tout ce qui était classic rock.
Oui.
Mais aussi un peu avec des sonorités aussi parfois plus country ou blues, quoi, qui me parlaient beaucoup. Mais en tout cas, la guitare me parlait pas mal. Avant de commencer la guitare, j'avais des groupes comme ça qui me marquaient pas mal, comme les Beatles, Supertramp. Puis il y a eu c'est par Dire Straits que j'ai eu vraiment un truc où la guitare était assez en avant, et puis il y avait le riff de Money for Nothing. Le riff de Money for Nothing, quoi, qui donnait envie, c'était un peu le Smoke on the Water de son époque, quoi.
Oui.
Le riff qu'on avait absolument envie de jouer, avec la grosse folie du Stadium Rock des années 80, les grosses tournées, les gros concerts, ça faisait envie.
Voilà, donc tous ces groupes-là qui ont façonné ton écoute et puis qui t'ont donné envie toi aussi d'être guitariste. Pourquoi la guitare au départ, Michal ?
La guitare, c'est vrai que l'instrument me faisait de l'œil. Je m'étais intéressé au piano, au clavier, mais la guitare, il y en avait une qui traînait chez ma grand-mère, je pense que ça a joué aussi. Et ma grand-mère me faisait aussi beaucoup écouter. Parce que je pense que c'est un des premiers shows guitaristiques aussi que j'ai eu, c'est Django Reinhardt.
Ah oui, d'accord.
Et ça, effectivement, c'est un truc que j'ai écouté quand j'étais môme, mais ça m'a parlé. J'ai mis beaucoup de temps avant d'essayer d'en jouer du Django Reinhardt parce que je trouvais ça intouchable, quoi. C'est un truc de divinité. On n'y touche pas, quoi.
Et encore maintenant, tu as déjà joué du Django Reinhardt. Tu joues avec guitare manouche, non ?
Alors j'ai évolué à un moment dans un groupe dans lequel il y avait aussi JB qui est bassiste avec Gaël,
ouais.
Qui s'appelait Kaina,
d'accord,
et qui avait en fait c'était la chanson rock, mais avec pas mal d'influences jazz manouche, tzigane, différents trucs un peu folkloriques, mais je jouais pas mal de jazz manouche à l'époque.
Et donc entre jazz manouche, blues, country, rock, classic rock. Tu en es arrivé à jouer avec pas mal de formations. Moi, j'ai épluché un tout petit peu ta bio. Tu viens d'évoquer Kaina, mais j'ai vu également un nom qu'on connaît dans Sweet Home Chicago. C'est Sophie Kay. À un moment donné, tu as joué avec Sophie.
On s'en va tout, pas plus tard que demain.
belle expérience. Ouais.
C'est marrant parce que en fait, voilà, ton approche de la guitare, quand on t'écoute jouer maintenant avec Gaël Busvel principalement, on n'a pas du tout l'impression que, bah, que tu sais toucher à tous ces styles-là. Et pourtant, voilà, je te sens guitariste multistyle, Michel, non ?
Bah, c'est ça, je m'intéresse à vraiment pas mal de styles différents. Alors, comme tout le monde, j'ai des styles de prédilection, mais dès qu'il y a un truc avec une petite île d'oreille, je me dis, tiens, si j'essayais ça, quoi.
Voilà, c'est plus la curiosité que les nécessités économiques qui font que bah, tu t'es intéressé à pas mal de formations et que tu as fait pas mal de collaborations, finalement.
Il y a eu ça, mais même si parfois c'était des nécessités économiques et qu'il fallait bosser, donc je prenais le boulot qui... Ça, c'était plus au début.
En tant que guitariste, Michel, qui est celui ou quels sont ceux qui te font le plus rêver ?
Il y en a tellement, c'est vraiment le genre de question, ça va dépendre de ce que j'ai écouté. Là, j'ai envie de te dire Bob Margolin.
Stick out your can, here come the garbage man. Stick out your can, here come the garbage man. Stick out your can, here come the garbage man. Well, what did the fish say to the eel? The more you wiggle, baby, the better it feels.
Bob Margolin, parce que...
Ah ouais, ouais, d'accord.
Tu vois, c'est parce que c'est un des gars qui a un phrasé très, très net, qui a un son qui a même influencé Johnny Winter à une certaine période. Donc, en plus, je suis fan de Buddy Waters. Donc, forcément, c'est un guitariste qui me parle. Dans des trucs plus généralistes, entre guillemets, il ouais. Y a Mike Campbell, qui est guitariste du regretté Tom Petty. Campbell, qui est guitariste du regretté Tom Petty.
D'accord.
Que j'adore parce qu'il a un côté, il y a un petit travail d'orfèvre dans la sonorité, dans la façon de se placer dans les chansons qui est super. Après, bien sûr, le panthéon des Jeff Beck, Clapton. J'adore Joe Walsh aussi, un peu.
Ah oui, bien sûr, l'un des guitaristes des Eagles, oui. Ouais,
ouais, puis à la base, qui était sur James Gang. Mm-hmm. Parce qu'il a, il a un son assez unique, il a presque des traits d'humour dans son jeu. Il y a énormément de... Bien sûr, ouais, John Allman, enfin, tout le panthéon, quoi.
Ouais, tout le panthéon, effectivement. Et ce sont des artistes, voilà, qui t'ont mis le pied à l'étrier un petit peu et en même temps qui t'ont donné envie de jouer. Et ça, c'est ce que tu fais depuis, 25 ans, presque 30 ans, finalement, que tu es
ouais,
pro, hein.
C'est sûr.
Avec un bon nombre de collaborations, de groupes. Et puis surtout, en ce moment, Gaël Busvel. Gaël Busvelt, depuis quelques années maintenant, c'est la chanteuse, c'est l'artiste avec qui tu te produis le plus.
Et voilà, ben c'est, en tout cas, c'est un projet que j'ai pris en priorité parce que, après, l'équipe avec Gaël, on est très impliqués aussi, elle nous implique beaucoup aussi dans la création. On est presque comme un groupe, quoi.
D'accord, et donc ça veut dire que tout le monde a son mot à dire dans la création principalement. C'est vrai qu'avec Gaël, il y a beaucoup de compositions. Et quelle est ta part, justement, de travail dans cette création, dans la composition du répertoire?
En général, quand on sait qu'on va faire un album, qu'on prépare un album, tout le monde compose un peu de son côté. On fait écouter des titres à Gaël quand il y a des trucs qui lui plaisent. On pioche dedans. Parfois, on compose à plusieurs. Parfois, Gaël a des morceaux qui sont un peu aboutis, mais qui ont besoin de mûrir un petit peu. Donc, on les travaille tous ensemble. Enfin, c'est un travail assez collectif, quoi.
Alors, si on revient sur Gaël, il y a une belle expérience que vous avez pu faire tous ensemble. On en a parlé, Gaël, l'autre jour. C'était le fait d'enregistrer au même endroit que les Beatles. Tu as cité les Beatles comme une de tes influences principales au tout début. Quel a été ton état d'esprit au moment où tu as franchi la porte du studio Abbey Road à Londres?
Alors, au début, j'étais arrivé un petit peu pragmatique en me disant, bon, c'est un studio, effectivement, il y a eu les Beatles, il y a eu Pink Floyd et j'en passe, mais bon... C'est un studio, quoi. C'est pas forcément... Il n'y a pas que les murs, il y a aussi des gens qui y passent, quoi. Donc, j'arrive, voilà, comme ça. Et puis, en arrivant dans le studio, je sors ma guitare pour l'accorder, je plaque un accord et j'entends... Je reconnais le son de la pièce. C'est-à-dire, je reconnais la réverbération de la pièce que j'ai entendue sur des disques. Et là, je me dis, bon, OK, d'accord. je ravale mon chapeau. Non, c'est pas qu'un studio, quoi.
Voices in your head. You're talking to yourself again. The endless questions spin around. The sticks and stones that bind you out. It seems that hope is going underground, but in the end, when all's been said and done, turn your face to the sun. In the end, that's only love. Like a lion will be born, right upon his back of gold.
Ah vraiment, il y avait une atmosphère sonore particulière.
Ouais, c'est ça. Surtout, en fait, des disques à l'époque qui étaient... il y avait beaucoup de sons de pièces. On reconnaît, c'est un peu comme chez Sam Phillips, où on reconnaît vraiment, il y a un fond dans la room.
Et ça, c'est extraordinaire. Ça parle pas forcément aux gens qui sont pas musiciens, Michel, mais le fait d'avoir un son, quelle que soit la guitare, quel que soit l'ampli qu'on utilise, quels que soient les effets, bien sûr, qui est lié au lieu, ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent, quand même.
Après, si on discute avec des musiciens, par exemple, des musiciens qui font du classique ou du lyrique, qui vont dire, on a joué dans telle salle, il y a une acoustique particulière, parce que ça parle plus aux gens qui la musique plutôt acoustique, non amplifiée, et vu qu'à Abbey Road on a enregistré un album acoustique, là ça parlait beaucoup.
J'imagine des instrumentistes en classique qui vont enregistrer quelque chose salle Pleyel et puis qui aura demandé de faire la même chose dans la salle des fêtes du coin, ça va peut-être pas effectivement donner la même chose.
Déjà pour la musique amplifiée c'est problématique, donc pour la musique acoustique c'est encore pire.
Comment est-ce que vous avez décidé, plus particulièrement, d'enregistrer ces morceaux-là à ce moment-là?
Alors, en fait, on avait très peu de temps à Abbey Road.
Oui.
On avait 2 jours. Donc, fallait qu'on ait un répertoire assez efficace, qu'on puisse jouer le plus live possible. Donc, la formule acoustique, c'était vraiment le plus simple à ce moment-là. C'est-à-dire, quasiment tous dans la même pièce, sauf Steve, le batteur, qui était dans pièces un peu séparées pour éviter que ça repasse dans les autres instruments, mais effectivement c'était la meilleure solution, quoi. Vraiment prendre la musique où elle était, quoi.
Avec un répertoire prévu à l'avance, j'imagine, puisque vous saviez dès le départ que vous aviez peu de temps pour enregistrer.
Alors, on avait un répertoire prévu à l'avance en partie, sauf que finalement on a pu avancer assez vite, et on s'est rendu compte à la fin de la première journée qu'il nous restait du temps. Et du coup on s'est dit, si on revisitait tel morceau qu'on n'a pas fait depuis longtemps, donc on a on les a revus très vite, quoi. Mais ça s'est fait assez, ouais, assez instinctif, quoi. Mmh.
Voilà, donc cette expérience avec Gaël Buzwell que tu partages depuis plus d'une dizaine d'années, on va le dire, hein, maintenant, Michel. Ouais, hein. Ouais. Et puis il y a d'autres collaborations. On a évoqué Sophie Kerr, on peut évoquer la Féline. Enfin, il y a d'autres artistes comme ça qui ont bénéficié de tes riffs et de tes solos de guitare. Et puis également United Guitars. United Guitars, est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là, quand on est, je crois, à son deuxième album ?
Ah oh non, je crois qu'ils sont presque quatre. Hein,
quatrième album, bah, tu vois, j'ai plein d'épisodes.
Ouais, il y en a, en fait, ils en font un tous les ans.
D'accord.
Et donc, c'est sous la houlette de Ludovic Egrad, qui est rédacteur-chef de Guitar Extreme Magazine.
Ouais.
Je crois que c'est parti d'un morceau un peu collaboratif qui avait été fait pour leur chaîne YouTube un jour. Et ils se sont dit que ce serait marrant de faire un album comme ça, en recevant, en fait, un album de guitare instrumentale. Et en faisant un gros melting pot de tout... des guitaristes, pas seulement de France d'ailleurs, parfois avec des featuring d'artistes étrangers. Et donc c'est ouais, ça finit en, je crois que c'est double album, il y a en général entre 20 et 30 guitaristes qui participent.
Ah ouais, c'est énorme, ouais. Et donc tu te retrouves dans l'aventure également. Ton matériel, Michel, qu'est-ce que tu utilises principalement au niveau guitare, au niveau pédale d'effet, au niveau ampli? Est-ce que tu es plus porté vers le vintage ou vers des sons plus modernes? Comment ça se passe quand tu choisis un matos électrique?
Alors moi, c'est vrai que j'ai un côté plutôt vintage.
Ouais.
Enfin, c'est vrai que moi j'apprécie vraiment pas mal les guitares vintage. C'est peut-être juste mystique et peut-être juste psychologique, mais voilà, je trouve qu'une guitare qui a déjà un petit peu résonné, un petit peu vécu, pour moi elle sonne pas pareil. En tout cas, je ne l'aborde pas pareil, donc voilà, j'ai une appréciation sur les guitares vintage, quoi.
Et au niveau pédalier, c'est plutôt Boeing, c'est plutôt petite configuration. Comment tu fonctionnes la plupart du temps?
Bah, en fait, alors, c'est marrant parce que c'est un petit peu tout et son contraire. C'est-à-dire que j'adore jouer direct dans un ampli ou avec une ou deux pédales, quoi. Enfin, mais parfois, pour pouvoir retrouver d'un morceau à un autre à peu près les mêmes grains, je suis obligé d'avoir parfois plusieurs pédales d'overdrive, plusieurs fuzz différents pour m'en sortir, quoi, pour produire parfois des sons qu'on a eu sur un album. Mais ça reste sur des trucs assez organiques et analogiques. Hein. Y a pas trop de, c'est pas trop l'usine à gaz non plus, quoi.
D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure d'un groupe, notamment Dire Straits, avec Mark Knopfler, qui fait une carrière solo depuis pas mal de temps maintenant, qui sort un album d'ailleurs en ce moment.
Ouais.
Et puis, je le mets en lien avec le groupe que tu as choisi, Aerosmith. Pourquoi Aerosmith? Pourquoi pas un groupe que tu as découvert au tout début? Si, vraiment, Aerosmith, c'était l'une de tes premières découvertes?
Alors, Aerosmith, que j'avais entendu parfois à la radio quand j'étais môme,
ouais.
En fait, ce qui s'est passé avec Aerosmith, c'est quand j'ai commencé la guitare, donc j'ai eu des gens un peu plus âgés qui me disaient... Tu mets la guitare électrique, faut que tu écoutes du hard rock, c'est là qu'il y a les meilleurs guitaristes.
Carrément.
C'était ce qu'on disait à l'époque,
Le
hard rock. Alors moi, je connaissais déjà AC/DC qui me plaisait beaucoup, et à un moment, j'avais entendu parler, enfin, le nom d'Aerosmith, j'aimais bien comme ça sonnait. Chez le disquaire, c'était dans l'ordre alphabétique, au rayon rock, hard rock, ça arrivait pas loin derrière AC/DC. Je dis, tiens, c'est pas mal, le logo est sympa. J'ai commencé à chiner sur les albums des années 70. Hein. J'ai pris d'abord Toys in the Attic, parce qu'il y avait un morceau que je connaissais dedans, qui était Walk This Way.
Oui, et puis qui a été repris après avec Run DMC. Ouais.
Et voilà, et du coup, j'ai pris le suivant, en fait, derrière, qui s'appelle Rocks.
Hein, qui est sorti en 76, celui-là. Hein.
C'est ça, ouais, juste après. Donc c'est la grande période bénie produite par Jack Douglas, hein, où ils ont vraiment, pour moi, c'est ma période préférée d'Aerosmith. En fait, j'ai trouvé un truc chez Aerosmith que j'ai adoré, c'est que je fais partie des gens qui n'ont jamais réussi à choisir, d'ailleurs, personne n'a à choisir, entre les Stones et les Beatles.
Oui, non, toi, ça reste un vieux serpent de mer, effectivement. Je pense que ceux qui aiment les uns aiment aussi les autres.
Enfin, oui. En fait, il y a un truc, effectivement, il y a un truc chez les Beatles que les Stones n'ont pas et vice-versa.
Oui.
C'est-à-dire que chez les Stones, il y a eu très vite, à partir des années 70, le côté plus afro-américain dans leur musique qui s'est développé, qui a toujours, peut-être qu'ils ne sont pas allés assez loin. Ils ont splitté trop tôt, mais qui s'est jamais vraiment développé chez les Beatles comme dans les Stones. Il y a un truc pareil, un peu plus blues, même si les Beatles sont touchés au blues. Voilà, il y a un côté plus pop chez les Beatles, plus d'harmonie vocale, et il y a un côté plus groovy chez les Stones et plus bluesy aussi. Et dans Aerosmith, j'ai trouvé un truc qui cite un peu les deux, quoi. C'est vraiment une sorte de
d'accord
avec des échos de Led Zepp aussi.
C'est dû à la combinaison de Joe Perry et de Brad Whitford. C'est dû au chant de Steven Tyler. C'est dû à une espèce d'alchimie particulière dans Aerosmith.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. En fait, eux sont à la base tous fans des Stones et des Beatles. Et il y a ce côté américain, donc avec tout le répertoire. C'est-à-dire qu'eux prenaient en pleine poire en fait tout le répertoire américain. Donc que ce soit jazz, blues, country, ils ont eu le rock, enfin le rhythm blues et le rock vraiment des 50s en premier lieu. On a l'effet de Steven Tyler qui à la base était, à l'époque où le groupe s'appelait The Hookers, était batteur du groupe dans un premier temps.
Ah ça, j'ignorais, d'accord.
Joe Perry était chanteur-guitariste et bon après c'est avéré que bon effectivement Steven Tyler chantait tellement bien que c'était mieux de l'avoir au chant. Et ça s'entend d'ailleurs dans sa façon de chanter qu'il est batteur. Et il a même traumatisé le batteur Joey Kramer qui a fait plusieurs dépressions parce qu'il était, il a été assez directif avec lui, je pense.
Alors Steven Tyler, il était aussi claviériste, bassiste, il touchait un petit peu à tout. Mais batteur, je savais pas.
Mais c'était son premier poste. En fait, il avait un père musicien et il passait, je crois, tous ses étés à Sonapi, donc à côté de Boston, une sorte de base nautique où il y avait des groupes qui venaient jouer et il s'est retrouvé à jouer de la batterie dans l'orchestre de son père, si je dis pas de bêtises.
D'accord.
De souvenir de la bio que j'ai lu.
Et donc cet album-là, particulièrement, Rocks, ça s'est imposé dans ton choix quand je t'ai demandé de choisir un morceau, c'était Last Child, obligatoirement ce titre-là en particulier.
Ouais, parce que justement, ça décrit bien ce truc-là où on a une intro justement très pop, très vocale, qui pourrait faire penser en fait aux Beatles époque album blanc, quoi. Et derrière, on a un riff qui est très blague, très stonien, quoi. Et avec deux guitares très complémentaires. Parce que ça qui est super, c'est que Joe Perry a un côté assez sauvage, assez imprévisible. Et à côté, il y a Brad Whitford qui est un peu plus, alors je dirais pas académique, mais plus réfléchi. Et le mélange des deux est parfait, quoi.
Et le mélange des deux, c'est la bonne alchimie, c'est la bonne recette, quoi.
Carrément.
Alors, dernière question par rapport à Aerosmith. C'est un groupe, alors je sais pas, ils existent toujours ou... Dernièrement, j'ai entendu parler d'une séparation ou d'un arrêt total du groupe.
Alors en fait, là, ils ont annoncé une tournée Peace Out, donc en fait c'est un peu le farewell tour, quoi. Donc le problème c'est que maintenant on sait jamais
est-ce que c'est leur première tournée d'adieu, c'est ça en fait le truc?
Non, c'est la deuxième tournée d'adieu.
voilà. Ouais. Et donc la première partie pour Gaël Busvel, il faudrait y aller maintenant, quoi. C'est ça l'idée, non?
Ouais, mais en fait faudrait que eux, parce que je crois qu'ils ont interrompu des concerts parce que Steven Tyler s'est fait une fracture du larynx, je crois, un truc comme ça, assez costaud.
D'accord. Et donc ça devient compliqué. Ça aurait fait partie de tes rêves de faire un plateau avec eux?
Forcément, ouais. Après, je pense que je les aurais même pas croisés parce que ça doit être une logistique. Enfin, c'est des stars immenses. Hein,
oui,
donc,
bien sûr.
Je pense que tu les vois même pas.
Michel, merci pour nous faire redécouvrir cet album rock sorti, on va le rappeler, en 1976 avec le titre Last Child de Aerosmith. Et puis, toute dernière question, les projets. Il y a des tas de dates qui se profilent à l'horizon avec Gaël, notamment à partir de là, au mois de mars, avril. Enfin, ça repart.
Dès vendredi, là. Région parisienne. Là, puis deux semaines plus tard, on sera encore en région parisienne. Je ne sais plus en quel ordre. Du côté de Bordeaux.
D'accord.
Et aussi du côté d'Angers.
On regardera bien sûr sur le site de Gaël Busvel. Merci beaucoup Michel Benjeloun pour avoir participé à ce My Rockers. Et puis on va écouter Aerosmith immédiatement. Merci à toi. À très bientôt.
Merci beaucoup. À bientôt.
Salut. We'll be right back. C'était My Rockers numéro 45 avec Michel Benjeloun. On a pu écouter Dire Straits, Money for Nothing, Django Reinhardt, Les Yeux Noirs, Sophie Kay, Qu'ils s'en aillent tous, Bob Margolin, Stick Out You Can, Tom Petty and the Heartbreakers featuring Mike Campbell avec Between Two Worlds, Joe Walsh avec un extrait de Tim from Both Widows, Gael Buswell, Last Day, Gael Buswell à nouveau avec Perfect Foil, la version acoustique à Abbey Road, et puis Yvan Givic, Swan Vaudre et Michel Benjeloun dans Shining Super, tout ça, ainsi que Michel Benjeloun jouant tout seul une Gibson 1958 ayant appartenu à Freddy Kibetz. Aerosmith avec Walk This Way et puis bien sûr Last Child sur l'album Rocks de Aerosmith. On va maintenant replonger en 1974 puisque c'est la rubrique 50 Years After avec l'indéboulonnable J.J. Cale, extrait de Hockey, fabuleux album dont j'ai extrait ce titre Rock and Roll Records. Rock and Roll Records par J.J. Cale. J.J. Cale, le méconnu du grand public, et c'est une grosse, grosse injustice, bien sûr. On termine ce 1235e Sweet Home Chicago sur Radio 666 avec un nouvel extrait du disque du mois, Life is Hard, chez Gulf Coast Records, monsieur Mike Zito. La mort n'a aucune pitié. Death don't have mercy. Un morceau que je dédie à notre ami Buck Langlois, Magic Buck, dont on parlera la semaine prochaine. Mike Zito.
Death don't have no mercy in this land. Death don't have no mercy in this land. He'll come to your house and won't stay long. You look in the bed, somebody's gone. Death don't have no mercy in this land. And death will go in any family in this land. And death will go in any family in this land. He'll come to your house and won't stay long. Look in the bed and one of your family's gone. Death will go in any family in this land. Well, he never takes a vacation in this land. Well, death never takes a vacation in this land.
In this land.
Well, he'll come to your house, you won't stay long. Look in the bed and your mother's gone. Death never takes a vacation in this land.
C'est la fin de cette première heure. L'invité de la semaine en deuxième heure, ce sera Sean McDonald.